Et Julien commença sa nouvelle vie avec les deux Rénal, leurs deux fils, et une amie de Madame Rénal, Madame de Derville, à Verrières, puis à Vergy, dans la propriété de campagne des deux Rénal. Il sut si bien faire qu'au moins d'un mois après son arrivée dans la maison, Monsieur de Rénal lui-même le respectait. Certaines choses que Napoléon dit des femmes, plusieurs discussions sur le mérite des romans à la mode sous son règne, donnèrent à Julien quelques idées que tout autre jeune homme de son âge aurait eues depuis longtemps. Les grandes chaleurs arrivèrent. On prit l'habitude de passer les soirées sous un immense tilleul à quelques pas de la maison. L'obscurité y était profonde. Un soir, Julien parlait avec action. Il jouissait avec délice du plaisir de bien parler et à des femmes jeunes. Gesticulant, il toucha la main de Madame de Rénal qui était appuyée sur le dos d'une de ces chaises de bois peint que l'on place dans les jardins. Cette main se retira bien vite. Mais Julien pensa qu'il était de son devoir d'obtenir que l'on ne retira pas cette main quand il la touchait. L'idée d'un devoir à accomplir et d'un ridicule ou plutôt d'un sentiment d'infériorité à encourir si l'on n'y parvenait pas, éloigna sur le champ tout plaisir de son cœur. Ses regards, le lendemain, quand il revit Madame de Rénal, étaient singuliers. Il l'observait comme un ennemi avec lequel il va falloir se battre. Ses regards, si différents de ceux de la veille, firent perdre la tête à Madame de Rénal. Elle avait été bonne pour lui, et il paraissait fâché. Elle ne pouvait détacher ses regards des siens. Il abrégea beaucoup les leçons des enfants, et ensuite, quand la présence de Madame de Rénal vint le rappeler tout à fait aux soins de sa gloire, il décida qu'il fallait absolument qu'elle permît ce soir-là que sa main restât dans la sienne. Le soleil, en baissant et rapprochant le moment décisif, fit battre le cœur de Julien d'une façon singulière. La nuit vint. Les deux amis se promenèrent fort tard. Tout ce qu'elle faisait ce soir-là semblait singulier à Julien. On s'assit, enfin, Madame de Rénal à côté de Julien et Madame Derville près de son ami. Préoccupé de ce qu'il allait tenter, Julien ne trouvait rien à dire. La conversation languissait. « Serais-je aussi tremblant et malheureux au premier duel qui me viendra ?» se dit Julien. Car il avait trop de méfiance et de lui et des autres pour ne pas voir l'état de son âme. Dans sa mortelle angoisse, tous les dangers lui se semblaient préférables. Que de fois ne désira-t-il pas voir survenir à Madame de Rénal quelque affaire qui l'obligea de rentrer à la maison et de quitter le jardin? La violence que Julien était obligé de se faire était trop forte pour que sa voix ne fût pas profondément altérée. Bientôt, la voix de Madame de Rénal devint tremblante aussi, mais Julien ne s'en aperçut point. L'affreux combat que le devoir livrait à la timidité était trop pénible pour qu'il fût en état de rien observer hors de lui-même. 9h15 venait de sonner à l'horloge du château, sans qu'il eût encore rien osé. Julien, indigné de sa lâcheté, se dit, au moment précis, où 10 heures sonneront, j'exécuterai ce que pendant toute la journée je me suis promis de faire ce soir, où je monterai chez moi, me brûler la cervelle. Après un dernier moment d'attente et d'anxiété, pendant lequel l'excès de l'émotion mettait Julien comme hors de lui, 10 heures sonnèrent à l'horloge qui était au-dessus de sa tête. Chaque coup de cloche fatale retentissait dans sa poitrine et y causait comme un mouvement physique. Enfin, comme le dernier coup de 10 heures retentissait encore, il étendit la main et prit celle de Madame de Rénal, qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. Quoique bien ému lui-même, il fut frappé de la froideur glaciale de la main qu'il prenait. Il la serrait avec une force convulsive. On fit un dernier effort pour la lui ôter, mais enfin, cette main lui resta. Son âme fut inondée de bonheur. Non qu'il aimât Madame de Rénal, mais un affreux supplice venait de cesser. Pour que Madame Derville ne s'aperçût de rien, il se crut obligé de parler. Sa voix, alors, était éclatante et forte. Celle de Madame de Rénal, au contraire, trahissait tant d'émotions que son ami la crut malade et lui proposa de rentrer. Julien sentit le danger. Si Madame de Rênal rentre au salon, je vais retomber dans la position affreuse où j'ai passé la journée. J'ai tenu cette main trop peu de temps pour que cela compte comme un avantage qui m'est acquis. Au moment où Madame Derville renouvelait la proposition de rentrer au salon, Julien serra fortement la main qu'on lui abandonnait. Madame de Rênal, qui se levait déjà, se rassit en disant d'une voix mourante « Je me sens, à la vérité, un peu malade, mais le grand air me fait du bien. » Ces mots confirmèrent le bonheur de Julien, qui dans ce moment était extrême. Il parla, il oublia de feindre. Il parut l'homme le plus aimable aux deux amis qui l'écoutaient. Cependant, il y avait encore un peu de manque de courage dans cette éloquence qui lui arrivait tout à coup. Il craignait mortellement que Madame Derville, fatiguée du vent qui commençait à s'élever et qui précédait la tempête, ne voulût rentrer seule au salon. Alors, il serait resté en tête-à-tête avec Madame de Rênal. Il avait eu, presque par hasard, le courage aveugle qui suffit pour agir, mais il sentait qu'il était hors de sa puissance de dire le mot le plus simple à Madame de Rênal. Quelque léger que fussent ses reproches, il allait être battu et l'avantage qu'il venait d'obtenir anéanti. Heureusement pour lui, ce soir-là, ses discours touchants et emphatiques trouvèrent grâce devant Madame Derville, qui très souvent le trouvait gauche comme un enfant et peu amusant. Pour Madame de Rênal, la main dans celle de Julien, elle ne pensait à rien, elle se laissait vivre. Julien ne remarqua pas une circonstance qui l'eût bien rassuré. Madame de Rênal, qui avait été obligée de lui ôter sa main parce qu'elle se leva pour aider sa cousine à relever un vase de fleurs que le vent venait de renverser à leurs pieds, fut à peine assise de nouveau qu'elle lui rendit sa main, presque sans difficulté, et comme si déjà c'eût été entre eux une chose convenue. Minuit était sonné depuis longtemps. Il fallut enfin quitter le jardin. On se sépara. Madame de Rênal, transportée du bonheur d'aimer, était tellement ignorante qu'elle ne se faisait presque aucun reproche.